La fête de la Pentecôte, c'est donc la fête du don de l'Esprit, des langues de feu et du commencement de l'Église. C'est une grande fête chrétienne, une des rares fêtes que Calvin avait conservées justement dans son calendrier liturgique avec Pâques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'être une fête chrétienne, la Pentecôte était d'abord une fête juive. Et donc les disciples, le jour de la Pentecôte, n'ont pas reçu le Saint-Esprit comme ça par surprise. Ils étaient en train de célébrer une fête juive qui avait un sens particulier et dans lequel ils évoquaient et ils attendaient quelque chose de particulier. Et il faut savoir encore une fois qu'avant d'être une fête juive, la Pentecôte était une fête païenne. Et donc il y a, voyez-vous, un empilement de trois fêtes. Une fête païenne qui était une fête agricole, comme beaucoup de fêtes païennes, une fête juive qui récupère la première, et une fête chrétienne qui récupère les deux premières. Ce qui me semble remarquable, c'est que je crois que pour comprendre le sens de la fête chrétienne de la Pentecôte, on ne peut pas échapper au fait d'essayer de comprendre d'où elle vient. C'est-à-dire que la généalogie même de cette fête chrétienne est absolument indispensable pour en saisir le sens. Sinon, on ne peut, je crois, rien comprendre à ce qui se passe. Alors tout d'abord, donc un petit rappel, pardon pour ceux qui le savent, la fête juive. La fête juive de Pentecôte s'appelle la fête de Shavuot. C'était l'une des trois grandes fêtes de pèlerinage que les Juifs à l'époque de Jésus devaient faire en allant à Jérusalem. Et donc tout le monde allait à Jérusalem pour Pâques, pour Pentecôte et pour la fête des Tentes. On l'appelait aussi la fête des semaines, parce qu'elle durait 7 semaines après Pâques. Donc il y avait Pâques, on comptait 7 semaines, 7 fois 7, 49, plus 1 égale 50, le lendemain du dernier sabbat, et là il y avait la fête des semaines, la fête de Shavuot, qui a donné le nom de Pentecôte, qui en grec vient du mot 50. Pour nous aussi, Pentecôte, bien sûr, est 50 jours après Pâques. Et donc les Juifs, à ce moment-là, célébraient en fait l'alliance au Sinaï, c'est-à-dire le don de la loi. Et symboliquement, ils disaient que le peuple avait été libéré d'Égypte et que 50 jours après, donc, ils arrivent au pied du mont Sinaï et que là, donc, Moïse monte au Sinaï et il reçoit la loi. Quand on sait ça, on comprend déjà un certain nombre de choses concernant les événements qui nous sont relatés dans le livre des Actes. Tout d'abord, ces histoires de feu, qui sont intéressantes parce qu'il y a aussi du feu, bien sûr, au Sinaï ou à l'Horeb, quand Moïse reçoit la présence de Dieu au buisson ardent. Mais à ce moment-là, le feu est unique et collectif, c'est-à-dire qu'il y a un grand feu pour tout le monde sur la montagne, et Moïse descend avec les tables de la loi. Alors que là, premier changement, le feu n'est plus collectif, mais il devient individuel. Et chacun a sa petite flamme de feu qui lui est offerte. Alors évidemment, ça réjouit, je dirais, le protestant que je suis, et qui dit, ce n'est pas, si vous voulez, les responsables de l'Église qui ont le Saint-Esprit et qui ensuite dégringolent sur le pauvre peuple qui est au pied de la montagne des commandements. Mais c'est chacun qui reçoit directement cette révélation directe, cette présence de Dieu, et chacun a son petit buisson ardent personnel, et chacun a sa propre révélation divine. Cela dit, il y a une discussion terrible à propos de ce texte des Actes, parce que si vous lisez bien le texte, vous remarquerez que l'auteur ne dit pas qui a reçu les flammes de feu. On dit « ils étaient réunis ». Alors, qui était ce « ils » Et là, il y a deux lectures. Il y en a une cléricale qui dit « c'était les 12 ». Les 12 uniquement ont reçu les flammes, et donc, effectivement, il y a une sorte de cléricalisme. Les 12 reçoivent le Saint-Esprit, et ensuite, ils causent au peuple. Et l'autre lecture, qui est celle qui, bien sûr, me convient beaucoup mieux, chacun tirant la couverture à soi, c'est de dire que le texte ne dit jamais qu'il s'agit des 12, mais il s'agit des disciples. Et donc tous les disciples, innombrables, qui étaient là, reçoivent chacun la flamme de feu avec cette présence individuelle qui est donnée. Et puis on peut continuer, bien sûr, cette flamme de feu, cette présence, elle délivre une parole. Ben, évidemment, c'est comme sur le mont Sinaï, sauf que là, grand changement, sur le mont Sinaï, Dieu parlait en hébreu pour les Hébreux, en hébreu pour les Juifs, et voilà que là, l'Esprit donne aux disciples de parler les langues de tout l'univers. C'est-à-dire que ce n'est plus une parole limitée à un peuple limité, mais c'est une parole ouverte à l'ensemble de l'univers, une parole universelle. Et donc oui, la Pentecôte, c'est les disciples qui comprennent que non seulement la parole a été donnée à Moïse une époque, mais que de nouveau cette parole est donnée, que le Saint-Esprit a soufflé pour les prophètes, mais de nouveau cette inspiration est donnée, et que ça devient un message non pas limité au peuple juif, mais pour l'ensemble de l'humanité. C'est déjà pas mal, mais on peut continuer, et c'est là où ça commence à m'intéresser un peu plus, parce que c'est moins connu. Je vous ai dit que cette fête de Pentecôte était à l'origine une fête païenne. Et c'était la fête des moissons, en fait. Cela représentait le début de la moisson du blé, et donc les Juifs devaient, à ce moment-là, cueillir la première des gerbes qui avait mûri, la première gerbe de blé, et cette première gerbe, ils devaient l'offrir sur l'autel en sacrifice pour Dieu. Et ensuite même, d'ailleurs, ils devaient également, avec les premiers grains de blé, faire deux pains, qui étaient les premiers pains et qu'on devait manger un peu comme ça, rituellement, d'une façon spirituelle et religieuse. Et on disait qu'effectivement, cette fête devait avoir lieu 50 jours après la fête des pains azim, qui était la fête de Pâques. Et donc, ils offraient cette gerbe sacrée pour permettre de se préparer, je dirais, à l'avenir. Et chose importante dans ce contexte, c'est ces offrandes et ces petits pains qui devaient être fabriqués, des pains levés cette fois, pas des pains azim, devaient être faits par chacun. C'est-à-dire que ce n'était pas collectivement, on faisait une gerbe et puis on offrait ça symboliquement. Chacun devait faire ses petits pains et les offrir à Dieu. Nous y reviendrons. Donc voilà deux fêtes qui apparemment n'ont absolument aucun rapport. La première question que je me suis posée, c'est comment est-on passé de l'une à l'autre? J'essaye de trouver une solution et je crois avoir à peu près compris. Dans la fête des moissons, ce que l'on célébrait, c'est l'idée que Dieu pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. Et donc une façon de remercier, ben oui, pour la moisson qui donne du pain. Et c'était une façon de remercier Dieu, de dire que Dieu donne la nourriture et permet de subvenir à notre vie. Et très rapidement, bien sûr, en spiritualisant leur vie, le peuple hébreu a compris que la nourriture physique n'était pas la seule chose dont nous avons besoin, et que nous avions besoin d'une autre type de nourriture, c'est-à-dire nous avions besoin d'être nourris d'esprit, d'espérance, d'amour, de confiance, de foi et de paix. C'est ce verset essentiel répété au début de l'évangile de Matthieu: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc effectivement, tout à coup les Juifs se sont dit: mais voilà, Dieu il nous nourrit physiquement, mais ça bon, c'est, je suis même pas sûr d'ailleurs que Dieu gère la question des récoltes, mais en tout cas Dieu certainement subvient à la nourriture céleste dont nous avons besoin. Et Dieu certainement nous donne ce pain quotidien que nous demandons dans le Notre Père, ce pain qui vient du ciel et qui nous nourrit pour la vie éternelle. Et donc on veut célébrer ce Dieu qui nous donne cela, ce pain qui est la parole même de Dieu, qui est la Torah en quelque sorte, qui nourrit notre vie. Et c'est comme ça qu'on est passé de l'un à l'autre. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est ce que l'on demandait aux gens de faire dans cette circonstance. Parce que l'on dise que Dieu subvienne à nos besoins, pas de problème. Je vous le rappelle, c'est vrai, on est le jour de Pentecôte et tous les jours de l'année, Dieu vous donnera tout le pain dont vous aurez besoin pour vivre cette journée qui s'ouvre devant vous. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que l'on en fait et ce que le croyant doit faire. Et ici, justement, ce que l'on demande aux croyants, c'est de prendre le début de ce don qui leur est offert et de ne pas le garder pour soi, mais de le donner. Et ça, c'est, je crois, assez intéressant. Parce qu'en effet, cela veut dire qu'il faut offrir les prémices, comme l'on dit. Donner soi-même un peu du premier et du meilleur de ce que l'on attend en abondance. Alors, comprenez bien ce que je veux dire. Je crois que c'est plus important qu'il n'en a l'air. Parce que les chrétiens célèbrent toujours la Pentecôte comme une fête où on reçoit. Et en fait, je pense que dans la tradition juive, l'idée de la Pentecôte, ce n'est pas tellement de célébrer un moment où on reçoit, mais c'est le moment où on est appelé à donner. Parce qu'en effet, la Pentecôte, c'est l'accomplissement de Pâques. Alors, s'il y a un moment où on reçoit, c'est à Pâques. À Pâques, pour les Juifs, c'est la libération qui est offerte à tout le monde. C'est Dieu qui s'occupe de tout. Dieu prend le peuple et le libère. Et pour nous, chrétiens, à Pâques, Dieu s'occupe de tout. Jésus meurt sur la croix pour vous, pour moi qui sommes pécheurs, et il ressuscite pour vous comme pour moi. Et donc, à Pâques, on assiste et on dit « Oh, merci Seigneur !» Et dans la tradition juive, on dit que justement, la Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques, l'accomplissement de cette affaire. Et alors qu'à Pâques, on a les tout premiers grains qui éclosent à peine, à la Pentecôte, on dit « Ça y est, là, on va les avoir en abondance et on va en avoir plein. » À Pâques, on en a un peu pour soi, et à la Pentecôte, on dit maintenant, il va y en avoir pour tout le monde. Et c'est ça la fête de Pentecôte pour les chrétiens. C'est que les disciples, à Pâques, ils ont reçu cette bonne nouvelle de la résurrection du Christ, et Christ leur est apparu à Pierre, à Jacques, à un tel, à machin, et c'était leur petite expérience, et ils restaient entre eux. Et à la Pentecôte, justement, parce que c'était des bons juifs, ils se disent, mais enfin, la fête de Pentecôte, ce n'est pas de se dire « je reçois et c'est pour moi tout seul », c'est de dire « maintenant, je donne ». Maintenant, c'est pour tout le monde. Et la récolte, ce n'est pas pour faire mon petit pain de quotidien à moi. La récolte, c'est pour nourrir le peuple. Et c'est pour ça qu'il s'ouvre effectivement à une sorte d'universalisme. La Pentecôte, c'est de dire « il y a eu un tout petit peu de grain, eh bien moi je vous annonce, il va y en avoir à revendre pour tout le monde ». Mais la condition pour que cette bonne nouvelle locale, personnelle, devienne universelle, la condition, c'est de prendre d'abord quelque chose en petit que l'on a reçu et de le donner. Et donc, ils comprennent, les disciples, justement, je crois, à la Pentecôte, qu'il ne suffit pas de recevoir, mais qu'il faut donner pour recevoir. Et c'est là où il y a un changement radical dans leur vie. Avant, ils étaient renfermés sur eux-mêmes et ils attendaient que Dieu fasse quelque chose. Et au moment de la Pentecôte, ils se disent « mais non, c'est pas ça, c'est à nous de donner et pas à nous d'attendre ». Et donc la Pentecôte, c'est pas la fête où on attend le Saint-Esprit, c'est la fête où on se dit « avec ce Saint-Esprit, je vais parler, je vais donner, je vais aller vers les autres et je vais prendre ma vie en main pour offrir ». Prendre ce qui m'est donné pour l'offrir aux autres, prendre ce que j'ai reçu en petite quantité et ces prémices que je ressens que j'ai un peu reçues en moi, eh bien, je ne vais pas le garder, je vais le donner, parce que c'est en le donnant que je peux avoir l'assurance et l'espérance que je l'aurai en abondance. Je résumerai cela par, je dirais, cette idée qui est de dire, je crois, à chacun, ce que vous avez reçu en petit peu, eh bien, ne le gardez pas pour vous, donnez-le aux autres pour en avoir beaucoup ensuite. Et en effet, nous avons tous, je crois, de temps en temps reçu des petits dons spirituels, de temps en temps reçu une grâce, une chance, une présence, une foi, Eh bien, la Pentecôte nous dit, ce que vous avez reçu en petit peu, vous aimeriez l'avoir beaucoup. Bon, eh bien, ce que vous avez reçu en petit peu, donnez-le. Et si vous le donnez, vous en aurez plein. Et si vous ne le donnez pas, la gerbe pourrira. C'est comme ça. Et en effet, on voit donc encore la suite, le passage dans la tradition juive de Pâques au Sinaï. Réfléchissez bien, c'est important, Pâques, je vous l'ai dit, Dieu s'occupe de tout. Et au Sinaï, Dieu donne la loi, c'est-à-dire que tout à coup, Dieu va dire à l'homme, bon, alors maintenant, c'est plus moi qui m'occupe de tout, c'est toi qui vas faire quelque chose, et voilà ce que tu vas pouvoir faire. Et donc, au moment du Sinaï, au don de la loi, je dirais que Dieu dit à l'homme de se prendre en main, de faire quelque chose par lui-même. L'homme devient responsable de sa propre vie. La tradition juive dit que ces histoires de pain que l'on fait au moment de la Pentecôte, eh bien, ça correspond en fait comme à la, si vous voulez, à la naissance d'un enfant. Et que quand l'enfant est petit, on ne lui donne pas du pain à manger, parce qu'il n'en est pas capable. On le nourrit de bouillie, ou plutôt, l'enfant petit, tout naturellement, tète sa mère, c'est-à-dire qu'il tète le lait qui lui est offert. Et puis, il y a un moment donné où l'enfant doit s'autonomiser, et il doit manger du pain qui est une nourriture solide et qui est fabriquée par les hommes avec l'aide de Dieu. Et donc, avant le Sinaï, le peuple, il est comme un bébé. C'est Dieu qui s'occupe de tout. Et au moment du Sinaï, du don de la loi, le peuple devient adulte et on lui dit « Maintenant, tu te nourris d'une nourriture solide et à partir de cela, tu deviens adulte. » Et donc la Pentecôte, c'est le moment où les disciples deviennent adultes. Avant, ils étaient infantilisés, attendant tout de Dieu. Et tout à coup, on leur dit « Écoutez, ça va, vous n'allez pas tout attendre de Dieu. » Dieu vous donne ce qu'il vous faut, c'est-à-dire l'Esprit, vous vous en remplissez, et maintenant vous allez vers les autres, et vous donnez, et vous parlez, et vous agissez, et vous donnez peut-être même votre vie, mais vous allez vers les autres pour agir. Alors il faut donc cette chose essentielle qui est de recevoir pour justement se mettre à donner. Et ce que l'on reçoit, ou ce que l'on donne, dans la tradition juive, depuis toujours, on a vu que c'était essentiellement lié à la question de la parole. On le retrouve dans la fête des actes, puisqu'on nous dit que ces langues de feu, c'était des langues, mais ce n'est pas des langues comme l'organe. En grec, c'est glossa, la langue que je vous parle, si vous voulez. Hein. Et donc, c'est vraiment une parole de feu qui est donnée. Et dans la tradition juive orientale, d'ailleurs, au moment de la fête de Pentecôte, les mères juives devaient faire des petits pains au miel et faisaient chacun de ces petits pains en forme de lettres de l'alphabet hébreu. Et on les donnait aux enfants pour leur apprendre à lire pour la première fois les lettres de l'alphabet hébraïque et qu'ils apprennent à lire les premières lettres de la Torah. Parce que souvent dans la Bible, on dit que la parole de Dieu, elle est douce comme du miel. Donc voilà, on fait des gâteaux au miel et puis on les faisait en forme de lettres. Et pour dire que justement, ce qui est là essentiel, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la parole. Et puis de même, on faisait aussi dans la tradition juive, au moment de la Pentecôte, des pains. Et ces pains, on les faisait en forme de rouleau de la Torah. Et donc... Encore une fois, cette Torah qui est le pain que nous devons manger, parce que l'essentiel, ce n'est pas uniquement de dire « Ah, je reçois l'Esprit », c'est de dire « Ce que je reçois, c'est un esprit de parole ». Et donc une parole qui m'est donnée, qui est cette parole que nous partageons en ce moment et qui est dans l'Écriture, et ce que je dois moi donner au monde, c'est une parole, c'est-à-dire une transmission d'une parole qui fasse vivre. Alors donc les chrétiens, vous disais-je, considèrent la fête de Pentecôte comme une fête où l'on reçoit, eh bien, je ne crois pas. C'est une fête où on donne. À Pâques, on reçoit, et à la Pentecôte, on donne. Et c'est ça le rite qui est explicité par cette fête. On reçoit de Dieu, mais la première chose que l'on fait, c'est de redonner. les disciples avaient reçu. Et je crois qu'ils arrivent à la Pentecôte justement en se posant cette question. Ils se disent, bon, nous avons reçu Jésus-Christ, la bonne nouvelle, il nous a aimés, il est mort pour nous, il est ressuscité. Bon, très bien. Mais ça, c'est une question stérile. Et au moment de la Pentecôte, ils se disent, mais dans le fond, nous avons reçu, mais qu'est-ce que nous avons à donner ? Voilà la question. Qu'ai-je à donner ? J'ai reçu, mais qu'est-ce que j'ai à donner ? Et c'est à ce moment-là que la vie bascule, parce qu'on n'est plus uniquement des sortes de consommateurs de Saint-Esprit, de dons, de grâce, d'amitié, de ce qu'on attend du monde, mais on devient des transformateurs et de redistributeurs. Et ils se disent, qu'est-ce que je peux donner et distribuer ? Et c'est là que leur vie change et qu'ils peuvent justement se remplir de l'Esprit pour redonner. Sinon, si on ne donne pas, il n'y a plus de place en nous pour recevoir quoi que ce soit. Et recevoir l'Esprit, c'est d'abord justement être dans une disposition de donner, c'est-à-dire de faire de la place pour recevoir cet Esprit. Et quand on commence à recevoir, le seul moyen de continuer à recevoir, eh bien, c'est de donner, d'offrir ses prémices, sinon la source se tarit. Et ça, on le retrouve d'ailleurs dans d'autres coutumes orientales de la tradition juive, où à un moment donné, on demandait aux enfants, pendant la fête de Pentecôte, d'asperger les passants avec de l'eau. Ce serait amusant d'ailleurs, surtout les jours où il fait très chaud comme aujourd'hui, et parce qu'en effet, la Torah était considérée aussi comme une source d'eau. Donc il y a le pain et l'eau, bien sûr. Et on disait, ben, le jour de la Pentecôte, ce n'est pas le jour où on reçoit indéfiniment la source d'eau vive, mais c'est d'aller dans la rue et d'asperger les gens. Et donc on asperge de l'eau, on jette de l'eau sur les passants. C'est-à-dire, justement, on ne célèbre pas la réception de l'eau, mais on va en asperger les gens. Et les disciples ont compris ça. J'ai reçu, moi. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais en asperger le peuple et je vais donner au monde. Donc c'est ça, moi, qui me passionne dans la Pentecôte. Ce n'est pas la réception de l'Esprit, c'est les disciples qui se mettent au travail, qui se tournent vers les autres, qui oublient leur tristesse, qui oublient leur deuil et qui se mettent à agir, qui se mettent à parler, qui se mettent à guérir et à faire tout ce qu'ils avaient à faire. Les Juifs, pour Pâques, célébraient la sortie d'Égypte. Bon, les chrétiens ont réinterprété Pâques en disant Pâques, c'est la bonne nouvelle du salut qui est offert, c'est la bonne nouvelle de la vie éternelle. Et la Pentecôte, du coup, aussi change de sens. Et la Pentecôte, ça devient l'universalisation de ce message. C'est-à-dire, Jésus n'est pas mort pour moi, il est mort pour vous, frères et sœurs. Jésus ne me donne pas la vie éternelle à moi, il vous la donne à vous tous. Jésus n'est pas simplement, je dirais, celui qui m'aime, mais il vous aime. Et cet amour que je reçois du Christ, je dois le redonner autant que possible en aimant tous ceux qui sont là et de toutes les nations, Parthes, Mèdes, Élamites, de la Cappadoce, de la Phrygie, de je ne sais quoi, tous les endroits possibles dans ce don universel et sans limite. Et puis enfin, encore autre petit point éventuel, c'est que la tradition juive dit que le Saint-Esprit, ça c'est important à propos de la parole que l'on reçoit et que l'on redonne, bien sûr, c'est que la parole n'a pas été donnée à Moïse que sous forme de Torah écrite. Mais vous savez, la tradition juive dit très à propos que Dieu a dicté la Torah écrite, mais que par son Saint-Esprit, il a aussi appris à Dieu la loi orale, c'est-à-dire la tradition. Et que par conséquent, il y avait ce devoir de transmettre à ses enfants la tradition. Et ça, c'est important parce que c'est pour éviter, si vous voulez, le côté fondamentaliste de l'affaire, qui voudrait dire que cette parole que l'on doit transmettre, c'est le bon catéchisme que j'ai appris, qu'il faut que j'enseigne à mes enfants. Bon, c'est très bien d'enseigner le catéchisme aux enfants, et j'y suis éminemment favorable, bien sûr. Mais c'est plus que cela. Parce que ce que nous donne l'Esprit, ce n'est pas simplement une Bible écrite qui serait lettre morte, c'est aussi une parole orale, une parole de vie et justement un témoignage intérieur. Calvin avait conscience de ça, lui qui portait évidemment en très grande importance l'Écriture, il disait « sola scriptura », l'Écriture seule, Et il disait « Oui, mais l'Écriture ne devient pour moi parole de Dieu que par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. » C'est-à-dire justement, la lettre tue, mais l'Esprit fait vivre, et sans l'Esprit, la lettre, elle est fondamentalisme. Et cet Esprit-là, eh bien, je suis désolé, mais il n'est pas écrit, il est à trouver. Et c'est en cela que je crois que la Pentecôte nous concerne tous. C'est que ce n'est pas un jour les disciples qui ont reçu le Saint-Esprit et qui nous ont écrit les évangiles que nous devrions apprendre par cœur et aller apporter dans les foyers de tout le monde comme les témoins de Jéhovah. Mais c'est nous tous qui recevons certes une parole écrite, mais surtout une parole dans notre cœur, une parole d'espérance, d'amour et de paix. Et si vous êtes chrétien et que vous recevez dans votre cœur ce message de Pâques qui vous rappelle que vous êtes aimé, que vous êtes pardonné, que vous êtes sauvé, que toute votre vie est acceptée, accueillie, sauvée par Dieu, et qu'il y a en lui tout ce pain quotidien dont nous avons besoin, la source de l'eau de la vie qui nous conduit jusque dans la vie éternelle, eh bien, si vous savez tout cela, vous êtes invité vous-même à vous en nourrir pour le redonner aux autres, ne pas le garder pour soi, mais pour parler. Et cet esprit qui nous est donné, je crains que pour beaucoup de croyants, c'est une sorte de le Saint-Esprit, une sorte de gros oreiller qui nous console et nous fait du bien. Mais en fait, c'est un esprit de vie qui nous met en marche, qui nous met en route. Et la Pentecôte, c'est la fête de la vie, justement. Parce que, nous dit Paul, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais quoi qu'il en soit, on nous dit et on nous rabâche que la Pentecôte, c'est la fête de l'Esprit, eh bien finalement, je ne crois pas. Certes, sans Esprit, nous ne ferions rien. Mais l'Esprit nous est toujours donné, depuis le premier jour de notre vie jusqu'au dernier. La Pentecôte, c'est surtout la fête de la parole et de l'action, en sachant que toujours nous sommes accompagnés par cet Esprit pour être dans ce monde des témoins de l'Esprit. Amen.